RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous. Quelle étape à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. 19e étape du Tour de France, probablement la plus belle de cette édition 2018. C'était la dernière étape de montagne au départ de Lourdes à destination de la Reims avec la trilogie des grands cols pyrénéens, Aspin, Tourmalet, Aubiste, et une arrivée au bout de la descente à la Reims où c'est donc un Slovène, Primož Roglič, qui s'est imposé tout à l'heure. Primož Roglič qui en prime récupère une marche sur le podium puisqu'il boot Chris Froome hors de la troisième marche du podium. On va revenir sur tout ça dans quelques instants avec toute la Dream Team, à commencer par un très élégant ce soir, Cyril Guimard qui a mis la veste. Et oui, pour cette belle étape, tu as voulu rendre hommage aux coureurs et au Tour de France.
Voilà, marquer mon respect pour cette grande étape aujourd'hui que les coureurs nous ont fait vivre.
Voilà, Cyril qui, dès la prise d'antenne, tu nous annonçais, je pense qu'on va se régaler aujourd'hui. Une nouvelle fois, tu as eu du pif. Hein, il a du pif quand même,
Baudruy. C'est la première fois. D'habitude, c'est toi. À chaque fois que tu prends l'antenne, tu dis, bah, écoutez, c'est bien, on va se régaler, à vous les studios.
Mais bien sûr, mais je suis un imbécile, il était un génie, voilà. Mais tout le monde le sait, c'est comme ça.
La seule fois où je l'ai dit.
Mais heureusement qu'il y a un imbécile pour te flatter quand même.
Hein. Oh là, attendez, j'ai vu un coureur qui avait utilisé dans la presse régionale ces termes par rapport à d'autres
coureurs. Vos imbéciles. Coureurs. Ah oui, hier, effectivement.
On passe le sujet.
D'accord. Jérôme Coppel. Bonjour, Jérôme. J'espère
Salut
que tu
Christophe.
Vas être plus agréable que le vieux druide, là, quand même, la druidasse.
Je suis toujours agréable, t'en doutes pas, quand même.
J'espère bien. N'oublie pas que c'est ton premier Tour de France.
Parce que là, Christophe, j'étais désagréable, là.
Limite. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, qui va nous donner la réponse.
Vous êtes tendu. Bonsoir, messieurs. Je sens un peu de nervosité sur ce fin de tour.
C'est de la fatigue au bout de 3 semaines. Tu sais ce que c'est, Thierry. T'en as fait des Tours de France. Non, mais c'est vrai que...
C'est pas top, hein. Heureusement qu'il y a des étapes pour nous.
Mais tu rigoles ou quoi, c'est pas top. On s'est régalé aujourd'hui, on s'est régalé à l'antenne, on s'est régalé sur la route. C'est vrai que, voilà, Cyril le disait, je le disais aussi, c'est la plus belle étape de ce Tour de France jusqu'à présent, Jérôme. Il y a eu une belle étape aussi à l'Alpe d'Huez, mais jusque-là, les étapes de montagne se résumaient à une course de côte dans la dernière ascension. Or, aujourd'hui, c'est parti de beaucoup plus loin et du coup, le spectacle a été total.
Ah, c'est clair, plus de 90 km de l'arrivée avec Landa, Romain Bardet, Zakarin, voilà, ils ont mis le feu aux poudres. Et derrière, ça a donné des idées. Hein. On a vu Primož Roglič tout faire exploser dans le col d'Aubisque, dans la descente. Donc ouais, superbe étape et il y en a eu partout et c'est ce qu'on aime nous en tout cas en tant que spectateurs.
Ça restera pour toi aussi Thierry la plus belle étape de ce Tour de France en attendant celle de demain et celle de dimanche, mais enfin sur les Champs-Élysées,
oui.
C'est une étape gadget.
On n'attend pas, même si ça reste une belle étape, les Champs-Élysées, ça c'est pas une étape en bois quand même, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on on peut vivre dans les Pyrénées ou dans les Alpes et comme on a vécu aujourd'hui, parce que franchement une grande étape, on avait des doutes sur le passage à l'acte de certains coureurs qui n'avaient plus rien à perdre, bien au contraire, et ben on a vu certains coureurs tels Bardet, Landa et son équipe, parce que c'est toute l'équipe qui s'est lancée dans le boulot, qui a préparé cette attaque, et puis Bardet qui est parti de très loin, sans avoir peur de prendre un contre. Ouais. C'est un peu dommage pour lui parce que ça a pas marché, mais bon, ça a marché pour Roglič.
On y reviendra évidemment tout à l'heure. Cyril, c'est quand même dommage qu'il ait fallu attendre la 19e étape pour voir comme ça un tel chantier sur les routes du Tour de France. Comment on explique jusqu'à présent les outsiders du Tour étaient quelque part freinés dans leur tentative, dans leur velléité. Est-ce que c'est la force de la formation Sky qui a empêché ça? Mais aujourd'hui, elle était là, la formation Sky, avec encore 6 ou 7 coureurs dans les ascensions. Et pourtant, certains ont osé et ont failli réussir.
Là, on ne sait jamais exactement où la bagarre peut démarrer. Souvent, on l'attend dans certaines étapes. Et souvent, je l'ai dit, quand on attend trop d'une étape, quelquefois, il ne se passe rien. Et puis là, nous sommes... Ça fait 3 semaines que nous sommes partis. Hein. Donc, il y a énormément de choses qui se sont passées sur ces 3 semaines. Et puis, aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire, tous les astres étaient bien alignés pour faire en sorte qu'on ait cette belle étape. Le parcours s'y prêtait aussi. Et puis, il y a des coureurs qui n'avaient plus rien à perdre. On vient de citer leur nom. Il y avait l'équipe Movistar. Il y avait Romain Bardet qui n'avait rien à perdre non plus. Et puis, cette première échappée, avant d'ailleurs la contre-attaque de Landa et puis de Romain Bardet, une échappée où on retrouvait là encore les Français pour le match, pour le classement de la montagne avec Barguil et puis Alaphilippe. Et il y avait donc des possibilités de relais parce que toutes les équipes avaient des équipiers, tous les leaders avaient des équipiers dans cette échappée. Donc à un moment donné, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une bonne sauce.
Et on a l'impression qu'il y avait surtout des garçons qui n'avaient plus rien à gagner, plus rien à perdre dans ce Tour de France. Il faut attendre que les positions soient figées, qu'il n'y ait plus aucun espoir au classement général pour que certains sortent les ailes, tel Bardet, tel Landa, qui était très loin au classement général, enfin très loin dans le top 10, mais enfin très loin en termes de secondes et de minutes, Jérôme.
Bah c'est ça, quand on n'a plus rien à perdre, quand on s'approche de l'arrivée, bah voilà, il dessert le frein à main, ils mettent tout ce qui leur reste. Forcément, quand on est encore, quand il reste des étapes de montagne, on espère toujours que les jambes vont revenir, d'autres vont avoir des défaillances, qu'on va pouvoir remonter au classement général. Là, ils savaient que c'était plus le cas, ils ont tout tenté. Ils avaient plus, à mon avis, en tête la victoire d'étape que la remontée au classement général ou quoi, et c'est ce qui nous a donné une belle course.
Est-ce que ça vous laisse des regrets, Thierry? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu te dis, là, s'ils avaient attaqué un peu plus tôt, il y avait quand même de quoi faire tout au long des routes de ce Tour de France 2018. Il y aurait pu y avoir un peu plus de bouleversement au classement général et peut-être une moindre domination de la formation Sky.
Non, je pense que les regrets, on peut pas en avoir, ils peuvent pas en avoir, parce que je pense qu'ils avaient pas les jambes pour attaquer tous les jours comme ça. Comme dit Jérôme, il faut bien dire que c'est la dernière étape de montagne, donc derrière ils ne risquent pas d'avoir un jour sans, si on peut dire comme ça. Mais franchement, je pense qu'ils ont tout essayé. Bardet a essayé, les Movistar ont essayé
aujourd'hui, mais Bardet, est-ce qu'il a vraiment essayé?
Il a essayé dans les Pyrénées, ouais. Tu peux pas lui en vouloir. Après, avec ses armes, par rapport à la grosse tôle qu'est la Sky et l'intelligence de course, il faut aussi le préciser, parce que aujourd'hui, ils ont su jouer avec leurs adversaires.
Ouais. Mais il y a eu des alliances en plus, des alliances entre certains coureurs, la Movistar, formation AG2R, la Lotto Jumbo qui a réussi à mettre des garçons jusqu'au dernier col de la journée. Franchement, c'était pas gagné au vu de ce qu'on avait vu justement jusque là.
Bah la Lotto NL, c'était peut-être l'équipe la plus forte aujourd'hui en tout cas, hein, parce que Gezing a fait un sacré numéro, ils avaient encore Toulouk, ils avaient Krojvaj plus Roglic.
Merci à lui pour le Sky.
Exactement, ouais.
Parce donc, que sinon, on ne sait pas ce qui se serait passé.
Ouais. Après, on n'a pas eu trop de spectacles, mais attention, la première semaine, et c'est de la faute ni des organisateurs ni des coureurs, on a eu des conditions climatiques incroyables. On n'a pas eu de vent. On en a déjà assez parlé, mais on aurait pu en avoir partout au bout d'une semaine. Bordures,
la chaleur.
Donc nous, on a eu la chaleur qui a usé les organismes.
Oui, chaleur,
qui
mais les a raisonnable, un peu. Raisonnable, tout raisonnable. Même. Ça
mais
pas
voilà,
été
on
la
a,
canicule.
Il y aurait pu avoir des bordures, de la pluie sur les pavés, et là, on en mettait partout, quoi. Donc ouais. C'est un manque de chance aussi.
Manque de chance, mais en tous les cas, aujourd'hui, on s'est régalé. Et celui qui s'est le plus régalé, c'est donc le Slovène Primož Roglič, ancien sauteur à ski, qui remporte là une deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Lui qui avait déjà remporté une étape, c'était il y a 2 ans, me semble-t-il. Primož Roglič, qui, en plus de cette victoire aujourd'hui, s'empare de la 3e marche du podium et boute hors de ce podium Christopher Froome. On va revenir sur Chris Froome dans un instant. En attendant, on écoute la joie de Roglič, qui a été le plus entreprenant aujourd'hui, notamment dans la dernière descente, celle qui conduisait le peloton jusqu'à la Reims. Il a des qualités de descendeur exceptionnelles, un peu à l'image de Julien Alaphilippe. Et aujourd'hui, c'est dans la descente qu'il a construit sa victoire. On écoute Primož Roglič.
C'était une étape vraiment très compliquée aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'avoir pu gagner une nouvelle fois. J'ai saisi l'opportunité quand elle s'est présentée, mais je n'ai pas eu une énorme influence sur la course. Ça a été si dur du départ jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai senti que j'avais les jambes et je me suis vraiment arraché pour décrocher cette victoire. Je ne calcule pas avec précision les secondes que je dois rattraper. Je suis focus sur moi et ma performance. Et demain, ça va encore être un gros combat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dois tout donner pour être satisfait de moi, quelle que soit ma position au classement.
Primoz Roglic, formidable descendeur, formidable rouleur, très bon grimpeur, 28 ans, vainqueur cette année du Tour de Slovénie, du Tour du Pays Basque, du Tour de Romandie, qui est un garçon complet et qui peut-être dans les années à venir pourra viser la victoire. En tous les cas, demain il visera probablement la deuxième place au classement général. Roglic, est-ce qu'il aurait dû tenter d'accompagner Bardet et Landa lorsque ceux-ci se sont échappés à 100 km de l'arrivée, ou alors il aurait été pris en chasse par les autres? Cyril, qu'est-ce que tu en dis?
Ah non, il pouvait pas bouger là où Bardet a bougé, parce que on peut partir sur des coups, mais à condition, comme je le disais tout à l'heure, il faut que toutes les planètes soient dans le bon sens, et que pour pouvoir sortir comme l'ont fait Landa et Bardet, il faut être suffisamment loin au classement général pour pouvoir partir dans cette aventure. Ah oui. Et après on va durcir la course si vraiment on est très fort devant, ce qui était le cas. Mais si Roglic il sort sur ce coup-là, je suis désolé, la poursuite s'organise un cran au-dessus par l'équipe Sky. Ah. C'est-à-dire qu'à la limite, il laissait peut-être prendre 20 ou 15 30 secondes, et il l'aurait tenu à 30 secondes, parce qu'on sait aussi qu'il est capable de faire des différences dans les descentes, et puis il l'a démontré aujourd'hui. Donc non, là, le si lui il part d'aussi loin, ça le fait pas.
Il avait surtout beaucoup trop à perdre, lui, quand même, hein. Il joue le podium,
oui, c'est
du
ça.
Tour
à la
de France.
Différence de Bardet, ouais. Et Landa, et
eux,
lui,
ils
il
étaient 5e, 6e, 7e. Bardet,
oui,
a déjà fait
perdre,
des podiums.
Mais t'as aussi beaucoup à gagner quand même.
Ouais,
qu'est-ce qui fait la différence?
Justement, c'est la balance entre quel risque prendre et ce qu'on peut perdre. Lui, là, s'il part dans le Tourmalet, qui se fait becter et qui saute dans le col d'Aubisque, là, par contre, c'était chou blanc. Que là, voilà, il a attaqué plus tard, il a récupéré la 3e place, il gagne l'étape, c'était la bonne stratégie à adopter. Là, et comme dit Cyril, de toute façon, il l'aurait pas laissé partir, c'était réglé d'avance.
C'était la bonne tactique, Thierry, déployée aujourd'hui par Roglic. Il a fait aucune erreur dans cette étape.
C'est comme on dit, quand on gagne, on a beau courir à l'envers, on a gagné, on a raison. Non, mais là, il a bien couru. Après, c'est son équipier, le cintre, franchement, Steven, là, il m'impressionne parce que...
Kreuzweig, oui.
À la rigueur, il lui roulait dessus sur le sommet du dernier grimpeur. J'ai pas compris. Ils roulaient chacun pour leur peau.
Oui, mais bon, ils sont très rapprochés au classement général. Hein.
Oui, mais à la rigueur, il avait qu'à laisser faire Froome derrière, et puis après le contrer. Mais se mettre à rouler avec Froome dans la roue, je vois pas l'utilité de la chose. Mmh. Bon, c'est un peu dommage. Bon, par contre, Roglic, franchement, super costaud en montée, dans la descente, il s'est lancé dans le jump, impressionnant, impressionnant. Ouais.
Impressionnant.
Et puis il est encore très très costaud en ce fin de tour, sur la fin, il relançait. Parce que fallait y aller. Il n'y avait pas que de la descente sur la fin. Il y avait quand même du moulin qui chassait derrière.
En tous les cas, c'est un garçon vraiment complet, Cyril. Vraiment complet. Il sait tout faire, ce garçon. Hein, on l'a vu dans la montagne attaquer. On l'a vu dans la descente attaquer. Demain, dans le contre-la-montre, on l'annonce comme l'un des grands favoris. C'est un garçon qui peut postuler à la victoire dans un grand tour dans les années à venir. 28 ans, hein, il est à l'âge parfait pour espérer remporter un grand tour.
Oui, alors il sait presque tout faire. Le sprint, non, je pense pas que ce soit sa tasse de thé.
Mais
enfin, pour gagner le tour, c'est pas obligatoirement la qualité primordiale qu'il faut avoir. Mais il a un avantage sur tout le monde, c'est qu'il est le seul à savoir sauter à ski.
Ah oui, mais ça sert pas à grand chose.
On l'a vu, il s'est lancé dans le tremplin là, au sommet du col.
Ouais, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il a commencé le vélo qu'à 23 ans. Hein. Il est passé pro chez Adria Mobile, donc pendant 3 ans, de 2013 à 2015, donc c'était une équipe continentale. Et ensuite, il est passé chez Lotto NL en 2016. Donc vous imaginez, 3 ans plus tard, il joue le podium du Tour de France. C'est quand même incroyable. Normalement, quand on commence tard, et je sais de quoi je parle, on a quelques lacunes, que ça soit pour frotter, que ça soit pour descendre ou pour rouler. Et lui, il en a pas de lacunes.
Lui, il a pas de lacunes. Il a appris le métier à vitesse accélérée.
Ça fait 6 ans qu'il est pro. Hein.
Ouais.
Depuis 2013. Hein.
Oui, mais Adria Mobile, il faisait ni le Tour de France, ni le Dauphiné, ni Paris,
oui, mais
ni
fallait
toutes
bien
les grosses courses.
Ses classes, quand même.
Six ans qu'il est pro, mais il a commencé le vélo quand même un peu avant, non?
Ah non, il est, ouais, oui.
Il est pas passé pro dès le premier jour, quand même.
Mais justement, tu te rends compte, ça fait 5 ans qu'il a commencé le vélo, il y a 5 ans. Il y a un peu plus de 5 ans, il y a 7 ans.
Non, ça fait 6 ans qu'il est pro.
6 ans qu'il est pro. Tu peux pas.
Ah oui, il a commencé il y a 7 ans, ouais.
Bon, ouais, donc, en tous les cas, une belle progression.
Il y a 10 ans, il était encore sauteur à ski, puisqu'il avait disputé les championnats du monde junior, donc en 2008 en Pologne. Donc voilà, même si il est pro depuis 6 ans, apprendre le métier et être aussi performant en 10 ans, c'est pas mal. Est-ce que s'il avait commencé...
On va pas faire son procès. Le fait d'être aussi performant aujourd'hui veut dire aussi que c'est un garçon qui est très doué. On n'arrive pas comme ça n'importe comment, ce qui veut dire qu'il a vite appris ce qu'était le métier de cycliste, parce que je pense que faisant du ski comme beaucoup de skieurs, il devait faire du vélo dans le cadre de sa préparation, de son entretien. Il n'est pas arrivé là tout à fait par hasard. Il n'est pas arrivé à 20 ans sans être jamais monté sur un vélo.
Non, mais 20 ans en compétition, c'est pas pareil.
L'avantage finalement par rapport à un Thomas ou par rapport à un Wiggins, c'est que en faisant du saut à ski, il était forcément maigre, hein, parce que celle-là aussi, c'est l'une des qualités des sauteurs à ski, c'est d'être maigre, aussi maigre que les coureurs cyclistes.
Oui, sauf qu'il est moins maigre que les coureurs de la Sky.
Oui, tu as raison, il est moins maigre.
Ouais, mais il est plus musculeux, ouais, il est un peu plus massif.
Oui, parce qu'il a une paire de cuisses aussi, faut regarder les cuisses qu'il a.
Faire le métier, il n'y a pas de souci pour lui.
Il n'y a rien de meilleur qu'un ancien skieur, finalement, pour faire un coureur cycliste. Hein. C'est pas Thierry et Jérôme qui vont dire le contraire, non ?
Oui, on est deux à avoir fait ce cursus.
Ouais, c'est ça. Jérôme, alors tu nous rappelles, donc toi tu étais en ski nordique,
ski de fond.
Ouais. T'as été à quel niveau ?
Eh ben moi j'ai arrêté, il y avait pas encore l'équipe de France. J'avais fait des sélections en équipe de France. J'ai fait tout mon lycée en ski études au lycée du Fayet, et j'étais avec notamment Maurice Magnifica, c'était mon collègue de chambre qui est aujourd'hui le meilleur français et qui a été médaillé aux mondiaux de ski de fond.
Et toi, Bourgui ?
Moi j'étais pisteur secouriste. J'étais pas en compétition. Je ramassais les déchets. Les blessés.
Très bien. Alors, on va s'intéresser maintenant à Romain Bardet. Romain Bardet qui nous a fait plaisir aujourd'hui. Lui, que l'on sentait un peu au bord de la défaillance, mais en tous les cas, au bord de la crise de nerfs. Romain Bardet qui espérait beaucoup de ce Tour de France, qui espérait le remporter, ou en tous les cas, monter sur le podium. Il a connu pas mal de défaillances. Et aujourd'hui, Romain Bardet est parti à l'abordage à 100 km de l'arrivée en compagnie de Mikel Landa. Il a bien cru tenir la victoire d'étape avant que un certain Gesing ne roule sur l'échappée et rattrape à lui seul plus d'une minute à l'échappée. Donc du coup, échappée condamnée pour Romain Bardet, qui ensuite a tenté également dans la descente de revenir sur Roglic, mais il lui a manqué un petit quelque chose. On écoute la désillusion de Romain Bardet, qui en tous les cas a fait cette étape à l'orgueil.
De toute façon, c'était la seule stratégie. J'étais loin en général, j'allais pas attendre. Ça fait plusieurs étapes qu'il n'y avait aucune ouverture. Je me suis dit aujourd'hui, avec un col aussi difficile que le Tourmalet est placé à milieu d'étape, c'est l'étape ou jamais pour partir à l'assaut et faire les camps de manœuvre. Je pense qu'ils sont dit avec Mikel Landa, c'était pas loin de fonctionner, donc voilà, il fallait essayer. À l'orgueil, je sais pas, en tout cas, ça fait plaisir de reprendre, d'être un peu à l'avant de la course sur Tour de France. Et d'avoir pu être enfin un acteur.
Enfin un acteur de ce Tour de France, même s'il ne décroche pas la victoire d'étape, il a rassuré tout le monde et il a montré que c'était un grand champion. On n'en doutait pas, mais on l'avait senti quand même un peu en perdition pendant ce Tour de France. Là, il a montré qu'il était un grand champion.
Ça fait un moment qu'il a montré qu'il était un grand champion. Deuxième d'un Tour de France, troisième d'un autre. Ça va faire son quatrième top 10, voire top 5 d'ailleurs. Non, il a fait sixième la première année.
Sa toute première année, il a fait quinzième et après, il est jamais sorti du top 10.
Donc, il y a longtemps qu'on sait que c'est un grand champion.
Qu'il restait un grand champion et qu'il restait...
C'est rassuré,
évidemment, évidemment, Cyril, que quand tu termines deuxième du Tour de France, on sait que t'es un cadre. Mais là, quand même, on l'avait senti un peu, en perte de puissance, en perte de qualité. Alors,
c'est là où d'ailleurs les grands coureurs savent à un moment ou à un autre retrouver soit au travers de l'orgueil ou soit retrouver tout simplement du dynamisme. C'est là où on est capable de vraiment juger les athlètes. C'est quand ils sont capables, dans une période difficile moralement et physiquement, eh bien, à un moment ou à un autre, de ressortir, de se retrouver. Et c'est ce qu'a fait Romain aujourd'hui.
Est-ce qu'il lui a manqué encore un peu de jambes aujourd'hui ? Est-ce que tu l'as senti à la limite comme les jours précédents ?
Par rapport à ce qu'on l'a vu dans les tours précédents, j'ai jamais senti qu'il avait retrouvé cette tonicité, là où on sent qu'il envoie vraiment dans la pédale. Je crois qu'il a tout fait sur la classe naturelle et sur la volonté, sur la souffrance, mais pas avec ce petit quelque chose qui fait que d'un seul coup ça devient facile.
Donc c'était pas facile pour lui tout au long de ce Tour de France, et il a montré, même s'il ne décroche pas de victoire d'étape, qu'il reste un grand champion sur lequel on doit compter. La seule petite...
Alors ce qui m'a surpris, c'est que Romain fait partie quand même des grands descendeurs. Jamais une seule fois dans la journée, il n'a pris l'initiative dans les descentes. Et ça m'a un petit peu surpris, parce que ne serait-ce que la dernière, quand Roglic a mis tout à droite, du haut jusqu'en bas,
à aucun moment... Il a pas réussi à prendre la roue.
Non, mais à aucun moment il est passé, il a attaqué, quoi. Ouais, alors que dans d'autres circonstances, et on a pu le voir, c'est lui qui attaquait et qui faisait sauter les autres. Et là, il est resté passif.
Il faut des qualités de descendeur, Thierry, mais il faut aussi avoir les jambes dans une descente.
Et avoir les jambes, parce que quand tu as l'ouvrage, et tu l'as dit, Cyril, on le sentait pas... être le magnifique, c'est-à-dire qu'il avait la volonté de bien faire, il s'arrachait comme complètement dans les bosses, mais pas avec le coup de pédale facile. Donc il devait vraiment se faire mal dans les montées, dans les descentes. Et ben quand t'es à fond physiquement, tu es pas en confiance et tu peux prendre des risques, et c'est là que les gamelles arrivent. Donc je pense que là il se sentait pas en confiance pour attaquer, parce que oui, on attendait tous qu'il passe le sommet et qu'il se mette devant à la Roglic. Et c'est Roglic qui l'a fait.
Donc bien sûr. Romain Bardet, donc manque de réussite, manque un peu de jambes sur ce Tour de France, mais pas de manque d'orgueil pour le champion auvergnat de l'équipe AG2R, la mondiale, qui a une toute petite satisfaction ce soir. Il récupère une place au classement général, puisqu'après la défaillance de Quintana, il est désormais 7e au classement général de ce Tour de France avant le dernier contre-la-montre de demain. On va évidemment y revenir dans un instant. On va aussi revenir sur le sacre, parce que là c'est un sacre assuré pour Geraint Thomas, qui a été impeccable tout au long de ce Tour de France, qui est même allé chercher quelques secondes de bonification qui lui permettent ce soir d'avoir encore 2 minutes 05 d'avance sur Tom Dumoulin avant le dernier contre-la-montre. Impeccable Geraint Thomas, qui dans 48 heures remportera son premier Tour de France. On y revient dans un instant, et on s'intéressera également à Chris Froome, pour qui les jours se suivent et les désillusions se ressemblent.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessier.
Jusqu'à 20h, le débrief de cette 19e étape du Tour de France, remportée donc par le Slovène Roglic, qui monte sur la 3e marche du podium avant le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France. Demain, le contre-la-montre d'Espelette, sur laquelle nous allons revenir dans un instant avec Cyril, avec Jérôme et avec Thierry Bourguignon. Auparavant, on va s'intéresser quand même au grand bonhomme de ce Tour de France. Il n'a pas remporté d'étape aujourd'hui, mais il a tout de même terminé 2e. Il est allé chercher les petites secondes de bonification. C'est comme ça qu'il a tricoté son maillot jaune, et ce maillot jaune, il devrait l'emporter sur les Champs-Élysées dans 48 heures. Ce grand bonhomme, c'est évidemment Geraint Thomas, maillot jaune, leader du Tour de France, avec désormais 2 minutes 05 d'avance sur Tom Dumoulin. Jérôme, course gagnée, c'est gagné pour Geraint Thomas.
Oh, sauf pépin, oui, forcément, voilà. Mais comme on dit, tant que la ligne n'est pas franchie, il a pas gagné. Maintenant, 2 minutes 05 d'avance sur le chrono, et c'est loin d'être un manche en chrono. Ouais, je vois pas comment il peut perdre le tour. Mais voilà, tant que la ligne n'est pas passée, on sait jamais, mais il a un sacré matelas, en tout cas, d'avance.
Oui, 2,05, c'est largement suffisant, Cyril, pour s'imposer demain, enfin, dimanche plus exactement, sur les champs. Il ne reprendra ni Dumoulin, ni Roglic ne pourront lui reprendre 2 secondes demain.
Quelques secondes, peut-être. Des secondes, oui, mais lui reprendre 2 minutes 05 pour Tom Dumoulin et 2 minutes 20 ou 21 pour Roglic. Non, ça me paraît mission impossible, même si on est sur un parcours très, très exigeant, très difficile, avec une petite côte à 4 km de l'arrivée, 1 km à 10%, qui peut éventuellement...
Ça ne sera pas à sa défaveur. Hein.
Ça ne sera pas en plus en sa défaveur. Non, je vois pas comment on peut lui reprendre, sauf si vraiment, alors là, il avait une défaillance qui rentrerait dans l'histoire du Tour, quoi. Mais
rappelez-vous qu'il y a quelques jours, on disait, oui, Geraint Thomas, c'est un super coureur, mais on sait qu'en 3e semaine, il finit toujours par craquer. On attend toujours le craquage.
Non, moi, j'ai jamais dit ça.
Je n'ai pas dit que tu avais dit ça. J'ai dit que les gens disaient ça.
Oh, il est à cran. Ah,
il est pénible ce soir. Alors, il est à cran. Hein. Il va, ouais. On va lui enlever la veste.
C'est, ouais, c'est ça. Non, c'est la veste de sa veste.
J'entends énormément de gens, effectivement, dire ah, troisième semaine.
Mais, Cyril, et
c'est souvent ceux qui disent ça qui
fait. Ça a été le thème d'un débat il y a quelques jours.
Ben oui,
on se demandait, tout le monde se posait la question. Peut-être pas toi, mais toi, t'es un génie. Tout le monde le sait, t'es un génie.
Je suis pas un génie. J'essaie d'être logique.
La plupart des gens, sauf Cyril Guimard, se demandaient si Guérin Thomas ne connaîtrait pas un problème en troisième semaine. Bon, ben voilà, Cyril Guimard avait raison une nouvelle fois, Thierry. Hein, on se prosterne devant la majesté, devant le génie.
T'en fais un peu trop là quand même,
Thierry.
T'en fais un
Thierry,
peu trop.
Il faut se mieux, prosterner là, devant
de
Cyril.
Suite, lui baiser les pieds. On le sent dans son dans ses paroles qu'il sourit. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Non, mais bon, il faut bien dire que l'interrogation de Thomas, c'était ça. C'est que pendant les années passées, il n'avait pas le maillot jaune sur les épaules, il n'était qu'équipier et il avait souvent une journée moyenne. Bon, peut-être que ça sera demain, mais j'y crois pas parce que franchement, il a montré. De toute façon, il y a trois hommes très forts sur ce tour et ils l'ont prouvé. Ils le prouvent tous les jours un peu plus. C'est Thomas parce que il va s'arracher pour prendre encore des secondes de bonification aujourd'hui. Dumoulin qui est exceptionnel parce qu'il roule dans les bosses et sur le plat, on le sait, la machine quand elle est lancée, c'est énorme. Et puis le gagnant d'aujourd'hui, le Roglic, qui est un gars.
Alors vous parlez de la troisième semaine, je vais peut-être vous mettre en colère un moment. Qui aurait dit que Roglic tenait la troisième semaine? Il a commencé le vélo à 21 ans et
oui, mais
comment
il a jamais montré
la troisième semaine
des faiblesses là-dessus non plus.
Non, mais l'histoire de la troisième semaine, j'y reviens, attends, c'est débile.
Oui, non, mais ça, on peut tous avoir, tous les coureurs peuvent avoir un jour sans. On l'a vu, Bardet, jusqu'à présent, il a fait combien de tours? 100 jours sans. Ou 100 jours...
L'an dernier, sur le contre-la-montre à Marseille. Hein.
Ah oui, ben c'était la journée 100. Alors donc, il a toujours une journée 100. Comme au chrono, il l'a eu hier, du moins avant-hier.
Jérôme, il a réalisé la course parfaite, le tour parfait, Guérin Thomas.
Ah bah pour l'instant, clairement,
il faut avoir aussi de la réussite. Hein. Il est, faut pas tomber.
Voilà,
il est victime de cassure, de bordure.
Le vainqueur a souvent un peu de réussite aussi. Mais bon, quand tu gagnes deux étapes, tu fais deuxième du chrono par équipe, tu fais deuxième de la dernière étape de montagne. Bon là, il a simplement montré qu'il était le plus fort et qu'il a pas vraiment besoin de chance, qu'il est là. Et voilà, je vais avouer mes fautes, hein. Je pensais qu'il aurait un jour sans en troisième semaine.
Voilà. C'est toi, donc, qui a osé dire ça.
Mais j'assume. Hein, j'assume mes dires.
Ouais, non, mais Dieu manque, tu sais, faute avouée, déjà,
moi, tu es pardonné,
c'est ça. Si en plus tu t'excuses, on te pardonne à 100%.
Messieurs, on dit que Thomas, il a de la chance, mais quand tu es très fort, tu mets la roue où il faut,
exactement,
comme il faut, et tu navigues dans le peloton correctement, à contrario de ceux qui sont un tout petit peu plus à fond et
qui
ont tendance à tomber.
Je crois qu'il a eu un petit souci quand même sur les pavés à Roubaix. Je crois qu'il a eu une petite gamelle insignifiante.
Oui,
à un moment, ils sont tombés à deux ou trois de la Sky.
Ouais.
Où il y avait Froome d'ailleurs dedans.
Ou
une crevaison, monsieur, qui l'a eu de mémoire. Il a, mais bon.
Bon, sa plus grosse chaleur, c'est quand il s'est fait toucher par un spectateur à l'arrivée il y a trois jours, là, à Salary-Soulan. Vous avez pas vu les photos, là? Juste quand il lance son sprint, quand il va faire troisième là, il y a un spectateur qui lui touche le bras. Il veut vraiment le toucher, quoi.
Ouais.
Et du coup, il donne un coup de guidon. On voit, il se retourne. J'ai vu passer les photos. Là, je pense qu'il a dû avoir un peu peur. Ouais.
Alors, il est moins impopulaire que les Chris Froome, mais bon,
mais il fait partie de la Sky.
Les spectateurs sur le bord de la route.
Oui, mais là, il était mal placé. Il fallait passer moins près des balustrades.
Guérin Thomas, donc, assuré de remporter le Tour de France dans 48 heures. On verra demain s'il est capable de remporter une nouvelle victoire d'étape. Hein. Il en a quand même décroché déjà deux. Hein. Deux, c'est pas mal pour un vainqueur du Tour de France. En revanche, eh bien, il y en a un qui est une nouvelle fois battu. C'est Christopher Froome, pour qui les jours se suivent et les désillusions se ressemblent. Quadruple vainqueur du Tour en difficulté dans toutes les ascensions aujourd'hui, mais aussi en descente. C'était pas l'année et c'était pas le jour de Christopher Froome une nouvelle fois. On l'a jamais vu avec ce masque-là sur les routes du Tour de France. Jérôme, c'est quand même surprenant, même si évidemment il y a eu le Giro, même s'il y a eu l'incertitude quant à sa participation au Tour, même s'il y a eu l'animosité du public, ça a fini par le toucher, Chris Froome, hein, et le mettre au bas du podium.
Ben voilà, il nous montre un autre visage, mais là il est un peu miraculé, hein, sa quatrième place, s'il a pas Egan Bernal l'étape qui arrive à Saint-Lary-Soulan et encore plus aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, oui.
Il jouerait même plus le podium sûrement. Donc il a vraiment été rattrapé par le slip, comme on dit. Et là, il peut encore jouer le podium, mais voilà, il peut payer une bonne bière à Egan Bernal.
Ça doit faire bizarre quand même pour un vainqueur sortant du Tour de France se retrouver là au pied du podium, battu par l'un de ses équipiers. C'est arrivé à d'autres.
C'est arrivé à des grands.
On se souvient aussi du dernier tour de Miguel Indurain ou des tours
d'Eddy Merckx
aussi, bien sûr.
Eddy Merckx qui s'est fait enrhumer par Jim Mondi dans un premier temps et Bernard Thévenet dans un deuxième temps. C'était en 75. C'était la première défaite sur le Tour de France de Merckx. Il y a toujours un moment où le roi vacille.
Mais il n'y a pas si longtemps.
Thierry, est-ce qu'il aurait vraiment dû participer à ce Tour de France vu les conditions de départ de ce Tour, l'animosité, les soupçons, est-ce qu'il aurait vraiment dû participer à ce Tour selon toi, Thierry Bourguignon?
Ah, excuse-moi. Selon moi, j'avais pas envie de le voir au départ du Tour, donc je vais pas te dire oui. Mais c'est vrai qu'il arrivait avec un gros bagage accroché à sa selle, et puis il a beau avoir du mental, je pense que pendant 9 à 10 mois, il était pas dans son élément, il était pas dans sa tête, il devait se poser énormément de problèmes, un coup c'était un coup moins bien, un coup pas bien, franchement terrible. Moi, je me mets à sa place.
Il a participé au Tour. Il a une cinquième victoire en ligne de mire. Il est payé une fortune par Sky. Bien sûr qu'il devait être au départ. Il a été blanchi. Bien sûr qu'il devait être au départ.
Il devait être au départ. Et puis en plus,
il n'était pas dans les meilleures conditions au départ.
Ouais,
Il
devait être quand même. Il devait tenter sa chance. Il est.
Oui, d'accord, mais
il a raté. Mais il devait tenter le coup. Moi, je pense qu'il a bien fait de venir.
En sachant que il sort du Giro.
Je suis désolé, on lui a pas rendu service en le mettant au départ du Tour.
Je pense. Ouais.
D'abord parce qu'il l'a pas gagné.
Ouais. Et s'il avait pas voulu être là, il n'aurait pas été là.
Mais non, mais c'est sûr
qu'il voulait.
Non, mais ils étaient persuadés qu'il allait gagner le dernier, son cinquième tour.
Ah, tu dis le dernier.
Ouais, l'absus.
Ça va être dur. Ça va être dur de rebondir. Christophe,
c'est un souhait. Pour toi, il ne remportera plus jamais le Tour de France.
Quelqu'un qui a fait des séries l'année où il le perd, l'année suivante, ou alors bon, il y a peut-être des miracles. Je sais pas, peut-être des connexions avec les planètes, mais.
Dans les circonstances,
dans l'astrologie
aujourd'hui.
Où il se trouvait, moi si je suis son taulier, je suis désolé, je lui dis écoute, fais l'impasse cette année, ok, t'as été blanchi, bon, mais va te refaire une santé mentale.
Et puis il avait gagné le Giro, il fallait sortir par là.
Et puis il avait déjà gagné le Giro, mais là ils ont voulu être gourmands en partant du principe qu'il avait gagné le Tour d'Espagne, qu'aurait pu lui être retiré, qu'il gagne le Giro, ils voulaient faire les trois à suivre. Ils ont été trop gourmands. Il a fait les trois, mais il a pas gagné les trois.
Ah si, il a fait Tour 2017.
Non, mais Giro,
fait trois à la suite, Cyril.
Oui, mais il voulait les faire maintenant. parce que il parlait quand même de faire le Tour d'Espagne.
Ouais, il espérait remporter effectivement les trois grands tours dans la même saison. Ouais.
Mais moi, je pense que la charge de stress liée à son affaire de salbutamol était trop importante pour qu'il puisse durer au fil des mois sans avoir la moindre défaillance, ne serait-ce que sur le plan mental.
Mais ce qui vient
ne faisant pas le tour, il se faisait pas siffler, il revenait l'année prochaine et il y avait de l'eau qui avait passé sous le pont et tout était parfait. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait battre par son propre équipier. Ce qui est quand même jamais bon dans une équipe. Comment ça va se passer après le tour?
Il se fait ramener en plus par l'un de ses jeunes
par le monde de 21 ans. C'est un tour où il a été, pour moi, humilié. Pour moi, il a été humilié sur ce tour.
T'es dur. Il est quatrième du tour.
Oui, mais pour un vainqueur du tour, si.
Vous êtes dur, les gars.
Je suis d'accord avec Cyril. Pour un vainqueur sortant du tour, mais tu te rends compte. Et il a annoncé la couleur. Il était là pour gagner le tour. Donc là aujourd'hui, c'est certes Cyril a raison, Thomas lui prend la vedette, mais en plus il se fait sortir. Bon, il a pas encore tout à fait perdu le podium.
On y reviendra dans un instant parce que le podium il peut remonter dessus demain. Oui. Juste dernière question subsidiaire en une seconde. Est-ce que vous imaginez encore un jour Christopher Froome remporter le Tour de France, Jérôme?
Oui. Oui. Une seconde, tu m'as dit oui.
Une seconde. Oui. L'année prochaine?
Oui.
Cyril?
Non.
Non, l'année prochaine, non plus.
Bah non plus, non.
Thierry, non. Pour départager, non plus.
Tout à fait d'accord avec Cyril.
D'accord, il y a que Jérôme Coppel qui espère.
Il veut être gentil avec les coureurs.
Je suis optimiste. Heureusement que je les défends quand même, les gars. Heureusement que je les défends. T'as oublié ce que c'était, Cyril Guimard, de faire du vélo. T'as oublié ce que c'était de faire du vélo.
Donc deux noms à un oui. Tiens, on va poser la question à notre espion dans le peloton, Anthony Turgis, qui nous rejoint, qui est en train de rentrer à l'hôtel. Je sais pas si t'es déjà arrivé. Salut Anthony.
Si, je suis dans ma chambre là.
Hop. Bon, ça va, c'est pas déjà trop. Non, pas massé, j'imagine, pas encore.
Hein. Dis Anthony, t'as entendu ce qu'on disait là tout de suite?
C'était pour
Froome. Oui, si Froome allait gagner encore un tour ou pas. Fais attention à ce que tu vas dire, c'est important.
Ah, moi je pense que oui, quand t'as les capacités pour aller gagner un tour, tu peux... Quand tu veux.
Merci Anthony, merci.
Voilà, les jeunes coureurs ou les jeunes retraités,
ils ont pas l'expérience, aussi.
Peut encore gagner un tour. Les vieilles barbes de l'Intégral Tour ne le croient pas. Anthony, raconte-nous un peu cette étape mythique évidemment. Pour nous, vu de notre studio, on considère que c'est la plus belle étape de ce Tour de France. Évidemment, quand on est un peu à l'arrière, j'imagine que c'est différent. Comment tu as vécu cette étape?
Parce que j'allais dire, moi je peux pas vous dire, j'ai rien vu. en fait le départ a été fait aussi encore très rapidement. Il y avait une bosse très tôt, donc en fait ça tout de suite on savait qui était en jambe pour aller devant. Et en fait le train de la Katusha a voulu revenir, je pense, sur les échappées pour en mettre un devant, parce qu'ils ont roulé. Donc ça a réduit les cas, et donc à partir de ce moment-là, bon, c'est vrai que déjà les deux premiers cols, ça allait en mettre partout. Hein, donc j'ai réussi à en tenir un sur les quatre, quoi, donc c'était pas mal pour moi. Et puis retrouver un groupe, donc voilà, c'était moins galère que sur la Madeleine et la Croix-de-Fer et la Pédiaz, quoi.
tu les trouves moins durs, les cols des Pyrénées, que les cols des Alpes? Ou alors c'est la troisième semaine qui veut ça?
Non, j'ai pas dit qu'ils étaient moins durs. J'ai juste dit que par rapport à ma journée que j'avais passée dans les Alpes, elle était un peu moins dure parce que je me suis retrouvé dans un plus gros groupe, en fait. Mm-hmm. Justement, c'était dur, mais en fait, j'étais moins en danger que sur l'étape d'avant, on va dire.
Et tu termines cette étape à la 90e place, à 32 minutes 05 du vainqueur Primoz Roglic. Bon, ça fait du bien de voir les montagnes derrière les roues maintenant, Anthony, de se dire que... Est-ce que tu as vu la Tour Eiffel d'ailleurs au sommet de l'Obisque tout à l'heure? Parce qu'on te posait la question hier, on disait, regarde bien au loin.
Mais non, il y avait du brouillard.
Bah oui,
il y avait du brouillard, et puis il n'y avait pas trop le temps pour regarder, parce qu'une fois qu'on bascule, le groupe est tôt, ils enquillent. Même s'ils ont le temps, ils roulent quand même dans la descente.
Le brouillard,
est-ce que tu étais dans le groupe avec Sagan?
Non, Sagan était derrière devant.
Non, Sagan était... il a lâché peut-être dans les premiers, justement, mais bon, on voit qu'il a souffert de sa chute, parce que sur le vélo, il est un peu, on va dire, un peu moins symétrique, et il est un peu plus penché d'un côté que de l'autre. Donc on voit quand même qu'il a pris une grosse chute sur ces derniers jours. Hein.
Ah ouais, Peter Sagan qui est arrivé dans le dernier groupe Eto avec un retard de 38 minutes 23. On était inquiets pour Peter Sagan au début de la retransmission, parce qu'effectivement on le voyait lâcher au début et en souffrance totale.
Moi je donnais pas cher de sa peau. Hein.
Bah lui aussi s'est accroché avec.
Combien les délais 44 non?
C'était combien les délais? On avait calculé entre 40 et 50.
C'est ça, entre 40 et 50 minutes. J'ai pas regardé du coup par rapport au temps du vainqueur, mais
45 et 50 secondes je crois, mais pas sûr.
Ah, on sent le coursier qui avait un peu peur au départ.
Tu dis que t'étais pas sûr, mais je pense que les gens qui t'ont donné l'info, ils le savaient, eux.
Tout a été calculé dans le groupe Eto quand même, hein, j'imagine, Anthony. Hein. On sait, connaît les délais, on sait où on en est.
C'est pour nous, ouais.
C'était qui votre chauffeur de groupe Eto, là?
La montée, c'était Rudy Mollard qui avait fait la montée, mais En fait, il y a eu un groupe Eto, mais qui s'est fait rejoindre par plusieurs groupes Eto qui revenaient par l'arrière. Donc, on était un très bon wagon, quoi, pour la dernière montée.
Anthony, demain, contre la montre. Bon, toi, tu vises pas un podium, tu vises pas un top 10 dans le Tour de France. Du coup, ça va faire quoi? C'est une journée de repos, c'est une journée de récupération avant d'arriver sur les Champs-Élysées. Comment tu considères et comment tu vas faire ce contre la montre?
Moi, j'apprécie toujours les contre la montre, hein, donc j'essaie toujours de les faire correctement. Après, le chrono de demain, il y aura la fatigue de beaucoup de coureurs, donc il va vraiment être particulier. Celui-là qui sera pas en bonne condition, il fera pas un bon chrono parce que c'est beaucoup de on va dire, c'est un circuit vraiment quatre pattes, c'est un circuit comme un peu aux Pays-Bas, c'est monter, descendre tout le temps, et en fait, la position, elle sera pas tenue très, très longtemps. Et il faudra vraiment rouler très vite dans les montées et puis savoir bien descendre pour pas perdre trop de temps non plus, quoi.
Et oui, comme le dit souvent Thierry Bourguignon, c'est mal plat dans ce pays basque où sera
c'est
donc
la montée de bosse demain.
Ouais, avec une petite bosse à 3 km de l'arrivée, je crois, qui est particulièrement difficile.
Oui, c'est 1 km à 10%.
Voilà, ce sera la dernière côte et ensuite tout droit jusqu'à Paris. Merci Anthony, encore une fois d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous et on te retrouve demain à l'issue du contre-la-montre et puis dimanche, on aimerait bien t'avoir dans notre studio hein, si tu as 5 minutes après l'étape nous faire un petit coucou pour nous montrer dans quel état tu termines ce Tour de France. Bonne soirée en tout cas Anthony, bon contre-la-montre demain et on se retrouve demain soir. Merci
oui.
Anthony.
Merci à vous.
Avec Cofidis, solution crédit, changez votre regard sur le crédit. Cofidis.
Anthony Turgis, notre espion dans le peloton de la formation.
Oui, encore un qui a jamais fait le tour et qui finit, qui est très bien en troisième semaine.
Ben oui, ça fait plusieurs jours qu'on le dit. Il est là, en grande forme. Il n'a pas connu de défaillance dans ce Tour de France. Allez, 19h48, dans un instant, on s'intéresse justement au chrono de demain. Dernier grand rendez-vous de ce Tour de France. Chrono organisé au Pays Basque, pays où ça monte et ça descend. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour.
9h52, l'intégral Tour de France se poursuit. On débrief cette magnifique 19e étape remportée par Roglic. 19e étape qui précède évidemment la 20e. Ce sera le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France. Ce sera demain le contre-la-montre entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette. 31 km. Donc, on le disait, avec des montées, des descentes, ça ne va pas arrêter de bouger dans ce chrono. Pour parier sur cette étape, on va accueillir Benji dans un instant. Ainsi que Lucho Leblanc qui arrive tout de suite.
Les Paris RMC.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Flick, Poker.
Monsieur Leblanc, bonsoir.
Salut Christophe.
Ça va, salut, Lucho, salut. Tu m'as l'air tout tristouné là.
Ah non, du tout. Non. Oui, bien sûr.
Tu t'es régalé aujourd'hui?
Ah oui, beaucoup.
Ah, aujourd'hui très c'était bien quand même. Hein,
ah
aujourd'hui,
oui,
c'était pas mal.
Oui, c'est parti de loin quand même.
Benji également avec nous. Salut Benji.
On aurait dit une imitation du dîner de con. Monsieur Leblanc.
Salut oui. Monsieur. Ça va oui.
Juste c'est Leblanc.
C'est son nom. Pour moi. Juste Leblanc.
Benji. Alors, oh là là, j'étais en train d'en parler avec Jérôme hier. J'ai failli jouer Roglic et avant l'antenne, Jérôme me dit.
Et non, grâce
mais
à moi, je l'ai bordé.
Tu vois un mec du classement général vraiment s'imposer demain? Non, moi j'y crois pas. Du coup, j'ai joué à la Philippe. Et ben voilà. Ben ça m'apprendra à écouter les pros. Benji, du coup, personne n'avait donné Roglic aujourd'hui, hein?
Non, personne n'avait donné Roglic. Donc le maillot jaune reste sur mes épaules, mais j'ai plus que 2 € de positif. Donc bientôt, on va tous être en négatif. Arnaud Souk garde le maillot vert et Christophe, c'est officiel. Sauf si tu chutes ou que tu abandonnes d'ici l'arrivée sur les champs, ce qui m'étonnerait connaissant ton expérience. Tu es maillot à poids, bravo Christophe, c'est la première fois que tu gagnes le maillot à poids sur les paris RMC.
Quel paradoxe quand même.
Plus t'es gros plus tu gagnes les poids, c'est quand même énorme ça. Très bien, demain donc le chrono de 31 km, est-ce que tu peux nous donner la liste des favoris, des grands favoris, que pensent les bookmakers de ce chrono?
Eh bien les bookmakers ont été impressionnés par la victoire aujourd'hui de Primoz Roglic parce que je pensais que ça allait être Samuel Dumoulin le favori, la cote a changé.
Samuel Dumoulin.
Non, là, c'est la cote est beaucoup plus haute. Mais Tom Dumoulin est à 2,80. Primoz Roglic à 2. Et derrière, les cotes s'envolent avec Geraint Thomas à 6. Kwiatkowski à 8 et Chris Froome à 13. Donc, parce qu'il n'est pas favori, parce que je pense qu'il a envie de gagner une étape et qu'il veut conserver sa deuxième place, je vais jouer Dumoulin.
Tu vas jouer du moulin. Je vais donner la parole ce soir à Arnaud Souk.
Ah, tu rêverais que je mise sur Sylvain Chavanel ou sur Arnaud Desmarres.
Non, moi je t'ai marqué la culotte, tu sais qu'il y a encore.
Tu vas marquer la culotte. Oui, mais tu ne gagneras plus là, c'est terminé.
Alors vas-y, donne ton pronostic.
Écoute, Tom Dumoulin sans aucune surprise.
D'accord, évidemment. Tom Dumoulin sans aucune surprise. Moi je vais donner Roglic, vainqueur de ce chrono. Les pros ou les anciens pros,
Jérôme Coppel.
Dumoulin pour
oui,
Thierry.
La même chose.
Roglic pour comme
parce
Christophe.
Il n'a que 19 secondes, donc il va falloir qu'il accélère parce que derrière.
Moi je fais comme Christophe.
Primoz,
tu me suis. On a plus de concurrence, Lucho, puisque j'ai gagné.
Non, mais c'est pas grave. Ouais, mais
bon, il y a le maillot jaune à aller chercher, pourquoi pas. Hein. Cyril, Pierre Latour est à combien? Ah, Pierre Latour, tu le vois remporter le chrono.
Non, je demande la
cote. Il est à 250.
Oh, putain. Il est champion de France du contre-la-montre quand même, c'est vous dire.
Non, puis là, il a fait un super contre-la-montre. Bon, là, le problème, c'est qu'il s'est battu comme une bête là aujourd'hui.
Tu l'as vu sprinter encore à l'arrivée tout à l'heure.
Oui, et son maillot blanc.
Ouais.
Ben écoutez, moi, je vais être français.
Oh, le sélectionneur.
Allez,
le
Latour,
sélectionneur bravo. Qui est en toi ressort.
Non, mais j'ai envie qu'il fasse une grande perf parce que
on a tous envie.
Ah bon?
On a tous envie qu'il fasse une.
Ah oui, mais votez pas pour lui alors.
Ah bah, faut gagner de l'argent.
Gagner de l'argent, c'est le but, c'est de gagner de l'argent.
Il va gagner le maillot blanc.
Bah, moi, je vais être supporter de Latour. Allez, hop.
Voilà, Pierre Latour, donc à 200. Alors là, par contre, si ça gagne, Benji nous en
Là, tu peux racheter une équipe, là.
Ou nous payer l'apéro.
Le prix d'une équipe ou l'apéro, c'est pas tout à fait la même chose.
Ah, ça dépend de qui t'as en face.
Très bien, voilà pour les paris. Merci, Benji.
PMU.fr, numéro 1 du pari en termes d'enjeu en 2017, voire conditions sur PMU.fr. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Tiens, Jérôme, je t'ai pas demandé ton pronom. Non, mais vas-y, donne-le.
Dumoulin
aussi, ouais. Tom Dumoulin pour toi. C'est Et tu voulais nous donner une info juste pour terminer?
Ouais, le podium du championnat du monde chrono l'année dernière, c'était Dumoulin, Roglic, Froome, dans le même ordre.
Ah ouais?
Donc c'est les deuxième, troisième et quatrième du classement général actuel.
Et on rappelle qu'il n'y a que 19 secondes d'écart entre Dumoulin et Roglic, 13 secondes entre Roglic et Froome, et que donc la bagarre va faire rage. J'imagine que tu vas en reparler jusqu'à 20h30, Arnaud.
Absolument.
Dans un instant avec Lucho et avec Thierry.
Absolument. Merci Christophe. On te retrouve demain, évidemment, pour l'intégrale le tour avant-dernière étape ou contre la montre plutôt entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette. Lucho et Bourgui seront avec nous dans quelques instants avec vous au 32-16 sur Direct Studio sur le hashtag RMC Live. Messieurs dames de la Ligue 2 également au programme de votre soirée. Et oui, c'est la première journée de Ligue 2 avec 8 rencontres en simultané, notamment l'US Orléans, cher à Benoît Boutron, qui vous commentera ces rencontres, qui vous donnera les résultats tout au long de la soirée. On aura également un 3-AC Ajaccio. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour.